Bien. Donc, rappeler évidemment l'intérêt des enquêtes ethnographiques. Le premier, c'est en effet d'apprendre beaucoup de choses sur les techniques en voyant fonctionner des gens qui possèdent tout à fait le métier. Et donc de corriger un certain nombre d'idées reçues dont les archéologues ont plein la tête. Et puis le deuxième, c'est évidemment de fournir des exemples qui peuvent constituer des parallèles, voire arriver à constituer des modèles interprétatifs. Bon, les limites, d'une part, c'est les limites de l'enquête orale, sauf quand on travaille pendant très longtemps sur des territoires, ce qui est le cas des vrais ethnologues et pas des archéologues, à savoir que lorsqu'on pose des questions aux gens, souvent ils veulent répondre ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux. Bon, donc là, il faut se méfier quelquefois des réponses, surtout quand c'est par le truchement d'un interprète. Quand on est allé interroger les petits arabes, on n'a pas eu le temps d'apprendre l'arabe. Donc on s'est aperçu quelquefois que si on ne connaît pas les techniques et on se rend compte que les réponses sont aberrantes, eh bien on peut enregistrer des choses qui sont fausses. L'autre chose qu'il faut garder présente à l'esprit, c'est que les ateliers, même traditionnels, ont connu des mutations dans le temps et qu'il faut essayer d'avoir une approche aussi historique. Alors il faut avoir les sources, hein, pour remonter un peu dans le temps. Et que des choses qui sont traditionnelles aujourd'hui l'étaient pas hier. C'est-à-dire qu'un certain nombre de traditions, finalement, ont 50 ans, voire 100 ans, ce qui est déjà pas mal, mais pour justement une analyse régressive où on voudrait y trouver les indices d'une technique qui remonte à l'Antiquité, ben, il faut savoir que, et on verra quelques exemples tout à l'heure. Bon, l'autre qui est une évidence, c'est que ce n'est pas parce que des choses, on l'a vu avec les exemples des baraques, c'est vrai que tel objet qui ressemble à une baraque, on voit que ça peut servir à des tas d'autres choses aussi qu'à barater. Donc, il faut. Bon, là, je vous rappelle un peu des évidences, mais voilà. Alors, en tout cas, l'enquête, pardon, renseigne sur des tas d'aspects. Et concernant la céramique, ça va. C'est toute la chaîne opératoire, hein, depuis la préparation de l'argile, le façonnage, la décoration, la cuisson, mais également sur les systèmes de commercialisation, de distribution, sur lequel, là, évidemment, je parlerai moins de ça, mais beaucoup plus de la préparation. Alors, premier point, préparation de l'argile au sens large, incluant évidemment l'extraction. On s'aperçoit souvent que les ateliers traditionnels, en tout cas, il y a tous les cas de figure, depuis des gisements extrêmement localisés à de très gros gisements d'argile, et que retrouver archéologiquement les sources d'argile, c'est assez difficile. Bon, voilà la poche d'argile qui est utilisée par un atelier du Haut Atlas. Il est évident que quelques siècles après, je ne vois pas comment on arriverait à localiser cette source. À l'inverse, il y a en effet de très gros gisements, comme à Fès, où le gisement est tel que c'est des camions qui rentrent dans la montagne et il y a des ramifications sur des kilomètres de ces bancs d'argile. Alors, rappelez en deux mots quelles sont les différentes phases de la préparation de l'argile. La première, c'est le séchage. L'argile est humide quand elle sort de, c'est l'humidité du sol, hein. Mais on va pas pour pouvoir la mouiller, la travailler, on commence par la faire sécher et la broyer. Donc on voit toujours, au sortir de la carrière, les mottes d'argile comme ça qui sont étalées et broyées, parce qu'une argile qui est humide va très mal fondre dans l'eau. Il faut qu'elle soit sèche pour bien fondre. Donc le broyage qui souvent va s'accompagner après d'un tamisage pour éliminer toutes les impuretés, tous les cailloux, toutes les et voilà donc deux exemples de broyage qui se fait manuellement, hein, évidemment dans les ateliers traditionnels et on voit la clé qui va le tamis pour le tamisage. Après quoi intervient le trempage, qui peut se faire dans des fosses. Donc là, c'est un atelier où les structures sont très simples, c'est que des petites fosses. L'argile est broyée, et après séchage, broyée, directement mise dans les fosses jusqu'à, on va dire, saturation de l'eau. Là, on aperçoit différents instruments, toujours le broyeur qui est simplement une espèce de gourdin, le petit tamis et les fosses dans lesquelles l'argile est mise à tremper. Après quoi, l'argile est sortie de ces fosses, étalée, c'est ce qu'on appelle le reçuage. c'est-à-dire éliminer l'eau, l'excès d'eau. Après quoi, évidemment, elle va être malaxée, pétrie. Et alors, suivant les cas, elle va être mise à pourrir. C'est-à-dire, elle sera utilisée plusieurs mois, voire des années après, ou utilisée dans la foulée. Là, ça dépend, il y a tous les cas de figure. Donc là, un exemple qui est intéressant, c'est celui des ateliers de Fès qui font des faïences. Et là, on utilise ce qu'on appelle la terre franche, c'est-à-dire que c'est l'argile très fine qui sort de carrière, qui est mise à fondre. Alors cette fois-ci, on verse l'eau sur la terre, c'est pas l'exemple précédent. Il n'y a pas besoin d'éliminer les impuretés, il n'y en a pas. Et on va fondre, l'argile fond comme le sucre, dans les bacs, après quoi, en effet, elle est étalée pour être suée. Et ensuite viendra, viendra le tamisage. Alors un exemple plus récent, évidemment, aussi d'enquête, car évidemment les périodes récentes nous fournissent des tas d'éléments, c'est l'atelier qu'évoquait tout à l'heure Philippe de Roussillon, qui est encore un des rares ateliers qui jusqu'à peu préparait encore son argile. Là, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il fait beaucoup appel à des argiles qui viennent d'Espagne. Mais jusque-là, il avait sa carrière et il traitait l'argile comme on l'a traité traditionnellement. C'est-à-dire, dans le bac qui est à l'arrière, vous avez un déliage de l'argile qui est emmené par une gouttière dans des bassins de décantation avec un premier bac qui sert simplement à graviter, à éliminer l'excédent de sable de l'argile. Et après quoi, l'évaporation fait qu'on va récupérer évidemment l'argile. On voit très bien dans le premier bac qu'il y a énormément de sable. Alors s'il faut, on fait plusieurs bacs. Hein. Ça, c'est le système des décantations qui est bien décrit par Brognard, c'est très simple. Simplement là, on a fait avec un bout de bois ou un bambou, on a délimité des carrés, ce qui fait que l'argile va se fendre de manière régulière au lieu de créer, voilà, il y a un accident là, et c'est simplement beaucoup plus facile après pour ramasser. Alors évidemment, ce n'est pas sans rappeler les systèmes de décanter les bassins qu'on a vus tout à l'heure. Et alors on était surpris de voir que les tuiles avaient les rebords vers le haut, ce qui paraît pas très logique, mais peut-être que ça a la même fonction. Il y a les deux. Mais dans ce cas-là, on se disait, si on bêche pour récupérer l'argile, c'est gênant, ces rebords. Mais peut-être que ça a l'effet qu'au séchage, l'argile va se diviser en blocs, comme... Faudrait faire un test. Oui, j'ai une flèche. Mais enfin, bon.
Parce que je vois que tout à l'heure, tu montres sur l'écran de l'ordinateur, mais nous, on voit.
Ouais, bon. Oh, en plus, vous n'avez pas d'imagination, c'est terrible. Bon, donc, l'opération suivante est donc le marchage. Opération bien connue et qui est la même dans tous les ateliers du monde, avec les mêmes gestes. Puis le pétrissage à la main, donc on finit d'enlever les bulles. Mais ça, c'est évidemment ce qu'on fait pour les céramiques tournées. Pour les céramiques modelées, on verra que la préparation de l'argile est souvent beaucoup plus rapide. D'une part, on prépare souvent l'argile le matin pour la production de la journée. Donc on fait le mélange et là ça s'apparente souvent à la cuisine. Ici vous avez l'exemple d'un atelier où on mélange l'argile avec le dégraissant qui est donc dans la... Hop. Deuxième, ici vous avez le dégraissant qui est de la chamotte, donc des tessons broyés. Ici vous aviez l'argile en poudre après broyage, tamisage et on mélange tout ça comme on ferait du pain au cumin. C'est une activité tout à fait... Après quoi, là, on a un mode de façonnage qui est tout à fait original, qui se fait à la plaque. C'est-à-dire que... Mais vous verrez tout à l'heure un petit bout de film où on voit les gestes, c'est beaucoup plus impressionnant qu'une photo statique, où elle monte des crêpes les unes sur les autres, et ça tient, et ça fait un vase. Et en 20 minutes, on vous a fait une amphore comme celle que vous apercevez à l'arrière-plan. Et après un séchage partiel en plein soleil, on passe évidemment à la phase de décor. Oui, là, ça prend plus d'une journée pour le séchage avant le décor. Alors, beaucoup de céramiques de production, cette fois-ci, on utilise à la fois la plaque et le colombin. Alors, soit simplement sur une plaque d'argile, de pierre, de plâtre, comme on voit ici, quelquefois sur un élément pivotant, mais on ne peut encore pas parler, évidemment, de tournette ou de tour à main, c'est encore le stade préliminaire. Alors ici, le façonnage par moulage sur une forme convexe. Et après ça, cette calotte va être reprise et travaillée en finit le vase par ajout de colombins successifs. Bon, ça, c'est une technique qui est beaucoup pratiquée dans toute l'Afrique, notamment pour fabriquer les grandes jarres à eau. Donc là, le sable sert évidemment à empêcher l'adhérence, le collage. Et on dit souvent des battoirs, là en l'occurrence en céramique. Et évidemment, on va voir la trace, les jarres, une fois finies, vont avoir un peu ce système de facettes, cet aspect de facettes. Alors ici, production au colombin, qui est assez classique. Et cette fois-ci, la potière utilise aussi des plateaux d'argile qui sont en fait des fragments de plats qui ont cassé, hein, tout simplement. Mais elle a un petit élément qui lui permet de poser la plaque et de la faire pivoter plus facilement. On voit très bien un peu tous les stades. Alors ce qu'il faut noter surtout, c'est que dans ces productions domestiques, évidemment, on a quand même des productions en série qui dégagent rapidement un surplus de production qui va être commercialisé. Et que, évidemment, le travail étant rationnel, on ne va pas faire un vase par jour. On en fait 20-30 par jour et on les travaille successivement. C'est-à-dire que pendant que ce vase sera fermé, on passe à l'étape suivante, etc. Alors cette fois-ci, on a un instrument tournant aménagé. Là, une petite tournette, mais qui n'a pas du tout d'inertie. Simplement, c'est une amélioration du système précédent. Et là, on arrive à un stade où le plateau étant assez grand, on peut éventuellement le faire tourner, au moins faire une égalisation sur la base de cet instrument. Donc là, à partir d'une plaque et d'un gros colombin, bon là, en l'occurrence, il en faudra deux, on fait de très grands plats. Et c'est beaucoup plus rapide de faire un plat de grande taille avec ce système-là qu'autour. C'est bien plus long à faire autour qu'au colombin. Et voilà le même plat. Au moment où, avant cuisson, on termine le polissage au galet. Et le plat a reçu entre-temps un engobe rouge. On verra la cuisson. Donc là, on passe au stade du tour à main, mais qui est utilisé indifféremment, soit comme tournette, soit véritablement comme tour. C'est-à-dire que là, on a un volant qui est suffisamment lourd et grand pour avoir une inertie. Donc là, si on il y a une force d'inertie si on lance le tour, et ça permet de véritablement monter un bourrelet, c'est-à-dire de faire du vrai tournage si on veut. Et alors cet atelier est particulièrement intéressant parce que c'est un des rares ateliers pardon, qui est dans la région de Fès où c'est pas généralement séparé. Plutôt souvent, on a des ateliers féminins, des ateliers masculins. Là, c'est un atelier où on a les deux. C'est-à-dire que les femmes utilisent cet instrument comme une tournette et ne font pas du tournage. Et les hommes, avec le même instrument, font du tour. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours évident à partir de la structure de dire tournage, pas tournage. Alors, on verra une image tout à l'heure. Mais dans ce cas-là, quand il s'agit de faire des grosses pièces avec un instrument comme celui-ci, eh ben, ce n'est pas compliqué, il faut un aide. Il y en a un qui tourne la roue pendant que l'autre monte le vase. Il n'y a pas assez d'inertie pour pouvoir monter une grande pièce. Ça ne peut marcher que pour des petites pièces. Alors voilà une adaptation du système, où cette fois-ci c'est une roue qui sert de volant. Donc ça, c'est vraiment le tour à main et on retrouve le geste qu'on a déjà sur certaines statues égyptiennes où de la main gauche, on meut la tournette et de la droite, on façonne. Et là, pour faire des petites pièces, ça va très bien. Alors, ce qu'on note aussi sur la statuette, c'est qu'on a les patrons d'argile qui sont déjà préparés. Bon, là, je ne vais pas remontrer les reliefs, parce que je pense que les égyptologues vous en parleront sûrement, des exemples de l'iconographie, puisqu'on a un ensemble de représentations d'ateliers. Et on voit que dans tous les cas, ce sont des tours à main, et même des ce qu'on appelle des tours lents, parce que c'est plus des tournettes que de véritables tours. Enfin, il faut savoir que le tour à main, lui, a été utilisé jusqu'à une date récente, en Europe, jusque pratiquement à la dernière guerre, que ce soit en Bretagne, en Limousin ou ailleurs. Et voilà un exemple portugais contemporain, qui était une photo que fait M. Picon. Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est lorsqu'il s'agit de faire des pliesses un peu plus importantes, et ben simplement, voilà, on se fait aider pour lancer la roue, ce qui permet que le potier a les deux mains libres et peut faire des pièces évidemment plus importantes. Alors ça, c'est un exemple évidemment un peu particulier, puisque c'est un tour à main qui est lancé au pied, voilà, mais pour autant, ce n'est pas un tour à pied. Ça, c'est un exemple pris dans les ateliers Thaï dans les années 60, qui permet évidemment d'avoir beaucoup plus de force quand on veut faire des grosses pièces. Alors, exemple de tours à pied qui sont bien utilisés aussi au Maroc. Et là, c'est intéressant par rapport à la structure elle-même. Bon, comme on l'a vu d'ailleurs pour des exemples égyptiens tout à l'heure, c'est vrai que c'était pratique d'avoir des structures en creux, ce qui évite de construire des bâtis. Et la plupart des ateliers antiques, la majorité des structures sont que des trous, que des creux. Là, en l'occurrence, évidemment, tout est en bois. On peut se demander ce qui reste comme témoin archéologique de ce tour quelques siècles après. Alors, un exemple de tour à pied, mais qui là aussi a quand même peu de... forcément un tour lent. Vous voyez que la partie volant inférieure est quand même très, très limitée. Et il faut... Il y a peu d'inertie. Il faut l'activer beaucoup. Là, un autre exemple. Bon, là, il aurait fallu d'autres photos pour montrer. Là, évidemment, c'est des jarres qui sont faites en deux parties. On reprend la partie basse et après, on rajoute une partie qu'on a tournée et qu'on va retravailler pour faire le col. Alors, un exemple de technique mixte, qui est le seul que je connaisse, qui est assez extraordinaire parce que là, il y a un véritable tournage sur des tours à pied. Mais pour la sortie, vous allez voir faire des vases qui ont l'air modelés. C'est-à-dire qu'après ce tournage, les vases sont déformés à la main pour arrondir la panse, puis retravailler la serpette. Le fond est assez épais et on va tailler à coups de serpe jusqu'à créer un vase totalement à fond rond. Évidemment, tout l'art du potier, c'est que lorsque vous prenez un de ces vases et que vous le cassez, vous avez exactement la même épaisseur, aussi bien au fond qu'au col, partout. Voilà, donc là, on voit très bien. Et le potier, mesurant l'épaisseur du vase, justement pour pas faire un trou ou pour pas laisser trop épais, passe son temps à taper avec les doigts et vous allez avoir des vases qui ont justement tout l'aspect extérieur totalement modelé à cause de ces, avec un col, lui, tourné. Et évidemment, on n'aurait peut-être pas imaginé ce mode opératoire quand on trouve les vestiges de ce vase. Bon, alors, c'est pas très courant, hein, c'est le seul exemple que je connaisse. Et si ça se trouve, 100 ans avant, on ne procédait pas du tout comme ça pour faire les mêmes vases. On faisait que du modelage et pas du tournage. Bon, donc, il faut se méfier. Alors, concernant les cuissons, on a aussi tous les types de cuissons. Depuis ce qui peut paraître le plus simple jusqu'au plus élaboré avec les fours des faïenciers. Donc là, on a des cuissons des vases à la pièce posés sur trois pierres avec des morceaux de chêne liège. Et la cuisson dure une vingtaine de minutes. C'est donc l'atelier où on a vu ces grands plats avec l'engobe rouge poli. C'est vrai qu'archéologiquement, ça ne laisse pas beaucoup de traces. Je ne suis pas sûr qu'en trouvant ces trois cailloux, on aurait pensé que c'était les structures de cuisson des céramiques, alors qu'à côté, vous avez de magnifiques structures bâties, mais qui sont les fours à pain. Donc voilà, les vases sont retirés du feu encore chaud. On voit d'ailleurs qu'il y a une réduction quand même de l'engobe qui est brun. Et il va se refroidissant, se réoxyder et retrouver ce très beau rouge. Et le décor est fait au goudron alors que le vase est encore chaud. Ce qui permet que le goudron fonde et en même temps se fixe dans l'engobe. Alors, autre type de cuisson qui est pratiqué un peu partout dans le monde, hein, ce sont les cuissons en tas, en air, où ça ne fait pas vraiment des meules chapées, c'est-à-dire la meule n'est pas complètement couverte. Et évidemment, ce type de cuisson est utilisé généralement pour les céramiques culinaires, que par définition, on ne veut pas trop cuire. Et généralement, on le voit très bien ici, les céramiques sont tirées du feu encore chaudes. On ne veut pas qu'elles restent trop longtemps dans le feu. Alors ça suppose évidemment des terres qui résistent au choc thermique. Donc ça, généralement, ce sont des céramiques suffisamment dégraissées pour justement supporter ces chocs. Alors ces cuissons en meule peuvent se faire sur des aires totalement plates ou avec des aires aménagées. Quelquefois, on finit par avoir vous verrez dans une publication allemande, un peu tous les types de meules qu'on peut avoir, mais qui dépendent aussi de l'accumulation des déblais, plus ou moins. Alors voilà un système un peu plus élaboré. Ce qui est étonnant, c'est de voir ce rangement extrêmement rigoureux et surtout extrêmement serré. Des vases qui sont simplement disposés sur un lit de bouse. Et les tessons vont être recouverts eux-mêmes d'un peu de fumier et de terre. Et à ce moment-là, on va avoir une cuisson lente, évidemment, mais qui, de toute façon, ne va pas dépasser de très haute température. Là aussi, c'est destiné à ce que les vases soient cuits vers 700 degrés pour garder une bonne résistance au choc thermique. Donc là, on allume le feu le soir et puis ça se consomme toute la nuit et on défourne le lendemain. Alors, autre exemple, autre structure de cuisson, des fours à pain qui sont utilisés cette fois-ci uniquement dans la région du Rif, dans le Nord, où les mêmes structures vont servir comme four à pain, mais vont aussi être utilisées pour la cuisson des céramiques. Alors, on connaît un autre exemple de système-là, qui est en Amérique du Sud, en Colombie notamment. Les ateliers d'Achampa utilisent des structures très très voisines. Et là, on peut quand même se demander, comme le Rif est dans la zone espagnole, enfin, le Maroc dit espagnol, si cette technique ne vient pas d'Espagne, ou si vraiment elle existe depuis très longtemps. Mais là, pour l'instant, on n'a pas d'éléments pour mesurer. Alors, après ça, évidemment, dans la complexité, on passe au four à sol perforé. Donc, les plus simples étant un pilier central avec des boudins rayonnants, comme certains fours de l'Athènes. Des fours dont le laboratoire est souvent très bas et le chargement va complètement dépasser les parois du laboratoire. Et il va être couvert de tessons. Alors le même système, mais pour des vases beaucoup plus grands qui vont servir à cuire des très gros récipients, dont des grandes cruches à eau, des grandes amphores à eau, cette fois-ci dans la région du Tafilet. Alors voici dans un autre atelier la fin du chargement. Ce qui est surprenant, évidemment, c'est la densité de céramique. La manière dont se fait l'enfournement très très serré, on a l'impression que le tirage ne va pas pouvoir se faire, tellement c'est plein. Mais il n'y a pas de problème. Donc là, l'intérêt de tous ces exemples, c'est de montrer que l'exemple le plus fréquent, c'est des fours qui ne sont pas voûtés, mais simplement couverts de tessons. Voici un petit four de Marrakech, et là ce qui va servir de voûte, hein, c'est ce qui est autour. Dans le meilleur des cas, on va mettre un cordon d'argile et mettre un peu de terre sur les tessons. Mais le système de la voûte provisoire qu'il faut casser à chaque cuisson, ça, je pense que c'est une vue de l'esprit des archéologues. Évidemment, ce n'est pas très rentable et très même facile à pratiquer. y compris pour faire des céramiques à glaçure plombifère. On a un certain nombre d'ateliers qui utilisent comme ça des fours cylindres sans couverture. Alors celui-ci, il aurait fallu avoir d'autres photos que je n'avais plus sous la main. Est très intéressant parce qu'on a justement, chose qu'on a vue tout à l'heure, des cuissons mixtes, où on va aussi faire de la chaux. Et ces piles de couvercles de tagine, les tagines de salé mondialement célèbres, vont être recouvertes de dalles de calcaire. On va faire un véritable plancher de calcaire avant de nouveau de remettre des piles de couvercles comme ça. Donc ça fait des tonnes quand même, des kilos et des kilos de céramique. Et à la fin de la cuisson, on va avoir récupéré en plus de la chaux. Alors ça, c'est simplement, si on revient du coup au four antique, c'est ces fours marocains ont l'air très rustiques, mais la plupart sont bien plus élaborés, contrairement à ce qu'on croit, que les fours antiques, qui comme beaucoup comme celui-ci, sont simplement creusés dans le sol, et là, dans les leusses, ça c'est à Brève en Belgique, et en fait, il n'y a que la sole qui est construite, on a peut-être un peu enduit les bords du trou, mais ce n'était même pas indispensable. Et la plupart de ces fours antiques, sauf peut-être ceux pour la sigillée ou pour des céramiques particulières, justement, n'étaient pas voûtés. Voilà un exemple de Florange. Pour moi, ce four est intact. Ce serait évidemment faux d'aller chercher une voûte collée là-dessus. Même chose pour le four trouvé dans l'atelier du Chapeau Rouge à Vaise. On voit très bien qu'on a le sommet de la gueule du four. Et il faut reconstituer un système comme ça, qui est tout à fait efficace. Il n'y a pas du tout besoin de voûte. Alors dans le cas de Foustat, on peut se demander si on a gardé une tradition de four voûté, c'est pas aussi dû... alors je ne sais plus quelle est la production. À l'époque où ils continuent à avoir des fours voûtés, je pense qu'ils font plus de faïence ou de choses comme ça. Alors que pour les faïences, généralement, en effet, on a des voûtes, parce que l'important, c'est qu'il n'y ait pas de refroidissement trop rapide. Bon, l'intérêt de la voûte, c'est beaucoup plus pour ça, enfin, c'est autant pour ça que pour la montée en température, ce n'est pas indispensable. Alors un petit mot sur les combustibles, on s'aperçoit, on a déjà eu un exemple tout à l'heure, mais que les combustibles peuvent être extrêmement variés. On va éviter évidemment de prendre du bois qui peut servir à la construction. Le potier a aussi besoin de bois pour le chauffage, pour la cuisine, et on utilise tout ce qui se brûle. Donc quand c'est des cuissons en meule, c'est évidemment plus facile que pour faire des porcelaines, mais vous voyez qu'on utilise la bouse, on utilise la paille et le fumier. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le chêne le meilleur combustible. C'est-à-dire que plus le combustible brûle vite et dégage de flammes, le meilleur il est pour cuire les céramiques. Donc un combustible qui est très léger, qui brûle très très vite, c'est l'idéal. Il vaut mieux brûler du fagot que de la bûche. Alors l'inconvénient des combustibles qui brûlent très très vite, c'est qu'il faut charger le four en permanente et qu'on a en plus des gros retours de flammes. Donc dès qu'on a acheté 10 poignées de paille, évidemment, on se recule pour ne pas avoir les cheveux et le reste complètement brûlés. Donc là, c'est à sa fille, à l'époque où il brûlait des genêts. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun genêt qui brûle autre chose. Là, c'est encore mieux. C'était la lavande qui était utilisée comme combustible dans cet atelier près de Marrakech. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de lavande dans un rayon de 10 km. Quoi. Ça, c'est évident. Ça ne repousse pas aussi vite qu'on brûle. Mais voilà le combustible souvent utilisé, qui se régénère justement facilement et qui brûle très vite. Et il faut savoir justement sur les enquêtes ethnographiques, sur des ateliers bon, comme ceux justement des études qui avaient été faites à Djerba ou qui ont été faites en Iran, que le principal coût de la fabrication, souvent, c'est le combustible. Elle peut représenter 30% du coût. Et oui, puisque le combustible, si on brûle plus que ça, au bout d'un moment, on ne peut plus aller chercher le combustible. C'est trop long. Aujourd'hui, on peut faire venir, évidemment, avec les moyens de transport, mais à l'époque où c'était à Dodane, s'il faut aller chercher le combustible à 20 km, là, ça devient problématique. Quoi. Donc, autre combustible, le tourteau d'olive, qui après tamisage, évidemment, un très bon combustible qui était lui utilisé dans les ateliers de faïenciers de Fès. Et alors un combustible qui est apparu il y a quelques années, c'est évidemment le pneu. C'est du recyclage. Bon, c'est pas très écologique pour le carbone. non plus pour toutes les ferrailles qui restent autour des ateliers, parce que de quoi, il y a des monceaux évidemment de les armatures en fer des pneus. Alors je ne dirais pas grand chose sur la commercialisation, simplement que c'est intéressant de voir que des ateliers qui au départ sont des ateliers de céramique domestique, comme justement l'atelier d'Irif qu'on a vu tout à l'heure, peuvent inonder tout un pays. Et c'est le genre de céramique que vous trouvez facilement en France. Hein. Ça, vous avez dû en voir. Vous pouvez acheter des tagines qui viennent de cet atelier. Et il est bien évident que les potières, surtout qui fabriquent ça, ne doivent pas imaginer une seconde qu'on peut acheter leurs produits à Marseille, à Marrakech ou ailleurs. Mais évidemment, ce n'est pas leur fête, c'est le fête des commerçants. Et le gros de la diffusion, c'est les grossistes qui viennent acheter par camion la production. Et ce n'est pas le potier... Je ne suis pas sûr que dans l'Antiquité, c'est le potier de la Grovesangue qui décidait d'approvisionner le camp de Vindonissa plutôt que celui de Langstetten. Mais le fait des grossistes, lui, il répond aux commandes et il vend, et il est content d'y vendre, il ne sait pas forcément où ça part. Donc le partage, ça c'est une des discussions qu'on peut avoir sur le fait que les potiers, les producteurs de céramique se partagent le marché. Montan se dit, moi je fais la façade ouest et la Grovesangue, je lui laisse la façade. Je pense que ce n'est pas le fait des potiers, c'est le fait des commerçants de céramique. Voilà. Alors un des avantages évidemment de ces enquêtes ethnographiques, comme on disait, c'est de progresser un peu, de pouvoir éliminer des hypothèses un peu farfelues. Voilà. Après ça, évidemment, on évitera de faire ce genre de restitution qui nécessiterait de sacrifier un potier à chaque chargement de bois. Ce qui fait que même ici, quand on charge le four en pleine cuisson et que le foyer est à 900 degrés, on ne s'attarde pas, on ne va pas ramper devant le four. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire en introduction, c'est pourquoi le Maroc, comment est né ce projet. C'est que le point de départ a été une mission que j'avais effectuée avec Picon au Maroc, qui était destinée à retrouver un des centres de production des céramiques de Tek Daoust. Ça fait plusieurs années que le laboratoire travaillait avec De Vis sur les céramiques du site de Tek Daoust en Mauritanie, qui était lié au grand commerce saharien. Et il arrivait à Tek Daoust des tas de céramiques à l'époque médiévale, dont on voyait bien qu'elles n'étaient pas fabriquées sur place. Donc une origine qu'on a très facilement identifiée, c'était la Tunisie. Et puis le reste des céramiques, on avait le choix entre l'Algérie et le Maroc. Donc on a pensé que ça pouvait venir des grands ports caravaniers de la frange septentrionale du Sahara, et notamment on connaît par les textes évidemment des comme Sigil Massa, qui est un grand centre caravanier du 15e siècle. Donc on est allé là-bas, la mission était très courte, on n'a passé qu'une journée sur place, mais on a trouvé un atelier médiéval et on est reparti. Mais ça avait été suffisamment longtemps pour que Picon soit frappé par la variété, le potentiel énorme qu'il y avait au Maroc par rapport aux ateliers traditionnels qui vont justement de la céramique modelée jusqu'au faïencier. Donc là, il y a un panel, on pourrait dire, de toutes les... pas toute l'évolution technique des céramiques, mais pas loin. Et que donc, ça pouvait vraiment se prêter à des études ethno-archéologiques très poussées. Mais lui, il y voyait aussi, chose sur laquelle moi, je ne suis pas passé, parce que j'ai surtout insisté sur la chaîne opératoire, mais tous les problèmes de localisation de l'argile, de traitement de l'argile ou pas, de mélange d'argile ou pas. Donc tous ces ateliers, on a travaillé sur plus d'une trentaine d'ateliers. Bon, on peut dire qu'on a presque fait des missions là-bas sur une dizaine d'années. On a prélevé des argiles, on a analysé ces argiles, on a prélevé des dégraissants, enfin, etc. etc. Bon. Pour vérifier un certain nombre de choses qu'on savait un peu déjà, que lorsqu'une céramique est grossière, ce n'est pas parce que le potier est mauvais, c'est parce qu'il veut avoir une céramique grossière pour qu'elle résiste au choc thermique. Et qu'à l'inverse, quand on fait des céramiques fines, généralement, on prend des argiles fines. Et il n'y a même pas besoin de les laver. Le meilleur exemple, c'est les faïenceries de Fès. C'est là où il y a le moins de travail sur l'argile, pour avoir l'argile la plus fine, la plus épurée. On cherche des gisements où elle est naturellement comme ça. Donc, on a pu... et là, il a fait un certain nombre d'articles sur ces questions que vous avez dans la bibliographie. Donc du coup, il avait proposé ça comme sujet de thèse à une Marocaine, Rama El Raïki, qui a publié une thèse avec une petite monographie sur tous ses ateliers. Et moi, je l'ai un peu accompagné comme photographe, comme conseiller. Et ça m'a évidemment beaucoup enrichi sur la connaissance de toutes ces techniques. Et ça a été bien pratique pour faire beaucoup de cours pour les étudiants et pour cette conférence d'aujourd'hui. Voilà. Alors, pour enchaîner, je voulais... Comme tout ça est statique, je pense qu'on a le temps. Où l'ai-je mis ? Voilà. Alors, vous montrer un petit film. J'espère que ça a marché. Oui. Qui a été fait pour le musée de Lezoux. Alors attendez, il n'y a pas le son, là j'ai l'impression aussi. Des ateliers marocains, mais aussi d'un certain nombre d'autres exemples. Donc, je voulais un peu vous montrer ceci. Alors, voici les carrières d'argile de Fès. Vous voyez que là, on est dans des gisements, évidemment, qui n'ont rien à voir. Et cette ouverture, là, c'est pas un trou de lapin, il y rentre des camions entiers. En revanche, voilà des limons qui sont utilisés. Et là, le mélange d'argile dans l'atelier de Fès, donc l'incorporation de la chamotte. Voilà. Alors, oui, j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être pas assez fort, c'est de la céramique broyée. Là, on est parti au Mali. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce geste pour coller les colombins. Et là aussi, j'ai vu dans tous les ateliers qui font du colombin. Il y a une seule et unique façon de... Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on met un colombin. Le façonnage à la plaque dans l'atelier de Sless. Alors l'outillage, j'en ai pas parlé, mais il est évidemment réduit à sa plus simple expression. Hein. Un carton, un chiffon, un bout de calebasse. Et... Alors voilà le tour à main, qui est utilisé donc par les potières pour faire simplement en tant que tournette, mais que les hommes, eux, utilisent pour faire du tournage. Alors vous allez noter que le potier va changer de sens. Ce qui ne choque pas les potiers marocains et qui fait halluciner un potier français, pour qui c'est impossible de changer de sens. Enfin, ou très difficile. Il faut inverser les gestes, évidemment, et normalement, il pense que la terre va se... Alors, ce qu'on voit sur ces tours à pied également, c'est que le tour est désaxé par rapport au potier, n'est pas en face, comme de tous les tours que vous pouvez voir dans le commerce aujourd'hui. Pour la bonne raison que si vous faites une grosse pièce, vous ne pouvez pas mettre la main dedans devant vous, alors que latéralement, oui. Donc là, je demande, c'est le façonnage d'une grosse pièce en deux parties. Donc vous avez vu que ce qui semblait être un couvercle ne sert en fait qu'à être retravaillé pour faire cette jarre de stockage dans laquelle on met les olives et autre chose. Un petit décor avec un bout de bois, c'est vite fait. Et voilà. Évidemment, on utilise des rondeaux, il n'y a pas question pour des grosses pièces de les couper sur le tour. Alors, opération très importante que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, c'est pour les céramiques tournées, surtout si l'on veut d'une certaine qualité, c'est le tournassage, ou avec un tournassin, qui a généralement toujours cette forme, simplement une tige de fer coudée. On enlève des copeaux. Alors, vous voyez ce geste du doigt, c'est ça qui permet au son, à l'élasticité, de mesurer l'épaisseur. Alors on peut aussi, avec une tige, faire un petit trou qu'on rebouche, mais un bon tourneur n'a pas besoin de ça. Donc là, oxyde de fer, oxyde de manganèse et 3 poils de chèvre permettent de faire un décor rustique, certes. Mais évidemment, la phase finale, la cuisson. Là, dans un atelier du Mali, près de Ségou, atelier de Farako. Donc là, une production qui est saisonnière. On commence le cycle le lundi, on fait la cuisson le samedi et on est au marché le dimanche. Toute l'année. Donc voilà un four qu'on a vu tout à l'heure en cours de chargement. On pose des tessons. Et alors ce qu'on constate là, c'est qu'on met aussi en fin de cuisson du combustible sur le dessus, puisque en effet les parties hautes sont toujours moins cuites. Il y a quand même une grosse déperdition de chaleur. Donc pour que le sommet du four soit aussi bien cuit, on va rajouter carrément du combustible sur le dessus. Et puis s'il faut, voilà, là on est revenu à Fès et vous voyez justement l'utilisation du tourteau d'olive. Donc il faut faire très vite, mettre des poignées et on s'éloigne du four. Ça, l'opération de défournement, qui souvent est faite à chaud, on n'attend jamais que le four soit totalement froid. On décolle les pernettes, puisque là c'est des céramiques vernissées. Donc il faut décoller les pernettes. Qui avait été fait. Alors pour terminer, non, mais c'est pas de mal. Où est-ce passé? Voilà, comme j'ai mis, on va cette fois-ci aller faire un petit tour. Alors comme là c'est un PDF pour faire grand écran, je vais où afficher? Non, c'est pas. Je ne l'ai pas vu, plein écran.
Mode plein écran, en bas des sources.
Oup, ah oui, écran, voilà. Excusez-moi. Pourquoi il me fait ça? Donc là, on change évidemment de région et d'époque. Des ateliers au Cambodge qui, eux, pratiquent des techniques assez différentes, notamment pour le façonnage. Alors, on voit là aussi différents cas en ce qui concerne l'extraction de l'argile. Mais beaucoup d'extractions comme ça sous forme de puits qui seront assez difficiles à retrouver en fouille quelques siècles plus tard. Là déjà des excavations un peu plus grandes. Et là une carrière à ciel ouvert mais qui est beaucoup plus loin et qui a dû être utilisée, qui est utilisée je pense pour des périodes beaucoup plus récentes puisque maintenant du coup c'est les camions qui viennent chercher l'argile là pour l'emmener beaucoup plus loin. Alors les outils, ce qu'on appelle les enclumes, enfin les Anglais disent paddle and anvil, donc on traduit par enclume, mais qui désormais sont souvent en bois ou en ciment, et en argile ou en ciment, pardon, et des battoirs en bambou. Voilà donc les outils de base. Et les pots sont façonnés sur un tronc, c'est-à-dire que la potière tourne autour du pot. Comme chose qu'on voit aussi en Afrique. Donc on commence par, elle commence par creuser un cylindre dans une motte. Il n'y a pas de fond, là, donc c'est un cylindre. Et elle travaille d'abord le col avant de déformer la panse. Donc à l'intérieur, évidemment, elle a son enclume. Vous voyez, petit à petit, on donne la forme au pot. Et avant même que le pot soit fini, on commence les finitions sur la panse. Après ça, il y a un raffermissage, évidemment, au soleil. Puis le pot est repris et on va refermer au battoir le... Donc, autre technique pour obtenir des pots à fond rond. À fond, voilà. Alors, même chose pour les grosses pièces. Voilà, donc, évidemment, un cylindre de taille plus importante. Et vous voyez que le... Simplement en tournant autour du pot avec deux doigts et un chiffon, on arrive à un résultat qui, sur un tesson, ferait jurer promis que c'est tourné. Quoi. Dans le même geste, on fait le ressaut interne pour le couvercle, la petite moulure de la lèvre. Ça, on va faire le décor au peigne ou au lissoir. Enfin, on a différents types de décors. Ici, simplement avec un petit peigne, des lignes de. Évidemment, on laisse sécher après, avant la cuisson, qui est une cuisson en meule, qui évidemment laisse pas. Ah ben non, là c'est le, pardon, c'est le séchage avant le travail du fond, ça. C'est pas le séchage définitif. Alors là aussi, comme dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, tout l'art du potier, c'est que de calculer exactement l'épaisseur de terre qu'il faut, d'avoir laissé suffisamment de terre pour arriver à compléter le pot avec la même épaisseur que partout. Mais évidemment. Non, il n'y a pas de rajout. Non, ils en enlèvent plutôt. Et après, au repoussé, voilà, au repoussé, on referme le. Et j'ai vu des pièces deux fois plus grosses que ça, pratiquement, faites avec la même technique. Donc, ce n'est pas la méthode de repousser des dogons, puisqu'eux, ils creusent petit à petit une motte, mais. Ils ne partent pas d'un cylindre, il n'y a pas un fond percé qu'il faut refermer ou repousser. Et la cuisson va se faire sur des bambous avec des feuilles de palme. Et de manière assez surprenante, à la différence de ce qu'on a vu en Afrique tout à l'heure, on ne couvre pas complètement les pots avec le combustible, on ajoute le combustible au fur et à mesure. Ce qui, du coup, provoque encore plus de chocs thermiques. Puisque là, vous voyez qu'il y a déjà du feu à l'intérieur, mais sur une partie des pots. Ce qui paraît assez aberrant. Enfin, je veux dire, techniquement, on se dit, c'est n'importe quoi. Il faudrait faire éclater les pots qu'il ne ferait pas autrement. Et de fait, c'est vrai qu'il y a un peu de casse. Mais bon, c'est pas. Ils en produisent bien plus qu'il n'en faut. Donc, on considère que c'est normal qu'il y ait un peu de casse. Il y a toujours un excédent. Donc. Nous, on trouverait que ce n'est pas logique de faire du boulot pour que les pots soient cassés, mais ils sont assez stoïques par rapport à ça. Donc là aussi, la cuisson, elle dure un peu plus d'une heure. Lorsque vous avez les pots, ces genres de pots en main, ils ont l'air très très cuits, hein, ça, c'est solide. Mais c'est surtout tout à fait propre à l'usage qui est de cuire les... Alors ce site s'appelle Kompong Schnang, hein. Schnang, c'est justement ce type de pot. Donc, c'est la Mecque de la marmitarie, qui après est diffusée dans tout le Cambodge, maintenant par des camions et des mobilettes, mais pendant longtemps, c'était uniquement voilà, des chars à bœufs blancs, ça c'est très joli. Et ça n'empêchait pas de diffuser à 300-400 km de là avec ce système. Alors, il y a aussi évidemment possibilité de remonter le Tonlé Sap avec des bateaux, ou de le descendre, ce qui est encore plus pratique. Et là, on voit des réchauds en cours d'embarquement. Voilà, cette fois-ci, c'est vrai, c'est fini.